diventate poi vita, io direi anche con una sensibilità europea, ed è importante. Forse qualcuno di voi ha sentito professori che vengono dai paesi del Maghreb, che vivono là e arrivano qui e facciamo fatica ad capirli secondo la mentalità. La scelta del professor Arkun è una scelta che permette a noi di avere una certa sintonia, di poter entrare, capire questo nuovo testo. E il taglio che il professore ha voluto dare in questo triangolo antropologico, come dice lui, è sul tema violenza, sacro e verità nella sura nona del Corano, At-Tawbah, cioè tra i 114 sure, il capitolo in cui è diviso il Corano, ha scelto appunto questo, il ritorno a Dio. Ecco, diamo la parola al professor Arkun, che di origine è algerina, ma forse avete letto un po' il suo curriculum qui sulla vita, ma vive a Parigi e a Casablanca.
Merci beaucoup, chers amis, mesdames et messieurs. Permettez-moi d'abord de remercier profondément du cœur la Banque Populaire de Milan qui m'a choisi pour avoir avec vous une communication qui, j'espère, sera féconde sur des sujets brûlants qui nous tiennent tous à cœur. Et il est bon et réconfortant que les banques, un peu partout dans le monde, se préoccupent de contribuer à une culture nouvelle dans des sociétés nouvelles qui sont en train d'émerger. Car les universités ne suffisent pas à remplir les fonctions nécessaires pour créer des lieux de communication, des lieux d'échange, et aussi des lieux de débat au meilleur sens du terme, sur les conditions qu'il faut remplir désormais pour que des cultures, des traditions de pensée, qui jusqu'à présent ont vécu séparément, et même jusqu'à présent ont été en confrontation violente, spécialement dans l'espace historique de la Méditerranée, où les trois grandes religions monothéistes se sont jusqu'à présent, et hélas continuent, de se battre, d'obéir à des conceptions de la vérité qui justement n'ont pas été suffisamment maîtrisées jusqu'à présent par une connaissance critique au sens intellectuel et scientifique des religions au pluriel, car il faut connaître chacune d'elles, mais par-delà le cas particulier de chaque religion. Nous avons besoin aujourd'hui et de façon urgente de réfléchir ensemble sur ce que j'appellerais le fait religieux, le phénomène religieux, comme on dit le phénomène de la vie, comme on dit le phénomène de la physique, du monde. Le phénomène, c'est ce qui nous apparaît, mais qu'il est difficile de comprendre parce que c'est complexe. Jusqu'à présent, nous parlons chacun de sa religion pour sa communauté. Désormais, il faut parler certes de chaque tradition religieuse, il ne s'agit pas de les éliminer, mais pour mieux comprendre le fonctionnement culturel, politique, psychologique de chaque religion, il faut donner à chaque religion la possibilité de reprendre l'histoire de sa tradition, et de réinterroger. De réinterroger. D'abord, comme vous avez décidé de le faire, les textes fondateurs. Les textes qui sont à l'origine des religions. En l'occurrence, le livre sacré. Ce que tous les trois religions appellent les écritures saintes, le livre saint, et essayer de comprendre comment aujourd'hui nous pouvons relire avec les outils intellectuels nouveaux que nous donnent les sciences sociales. Ici, les sciences sociales jouent un rôle décisif, de même qu'au Moyen-Âge. Les grands théologiens juifs, chrétiens, musulmans ont mobilisé les outils intellectuels de leur temps, qui étaient représentés par la philosophie de Platon et la philosophie d'Aristote, pour interroger les textes sacrés d'une façon rationnelle, critique. De même aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous contenter de répéter ce que les théologies héritées du Moyen-Âge nous disent sur les religions. Or, jusqu'à présent, malheureusement, même dans les universités, les facultés de théologie, les instituts d'histoire des religions ne pratiquent pas encore cette approche comparée, d'une histoire comparée et d'une anthropologie comparée des trois religions monothéistes dans un espace méditerranéen ouvert et non pas clos, car l'espace méditerranéen a été clos, fermé, justement lorsque l'islam est apparu dans l'espace méditerranéen. Je vous rappelle brièvement, l'islam est apparu entre 610 et 632, au début du 7e siècle. Le judaïsme avait déjà un long parcours. Et le christianisme avait déjà, en Proche-Orient, 6 siècles d'existence. Et lorsque l'islam émerge en Arabie, à la Mecque et à Médine, il a fallu immédiatement engager le dialogue avec les chrétiens et les juifs qui étaient depuis longtemps et qui vivaient depuis longtemps en Arabie. Et l'Arabie avait évidemment des relations avec l'ensemble de ce que nous appelons aujourd'hui le Moyen-Orient ou le Proche-Orient. Et ce Proche-Orient connaissait déjà cette philosophie grecque et en particulier l'œuvre d'Aristote qui était traduite en langue syriaque, qui est la langue des pères de l'église chrétienne du Moyen-Orient, et tout était engagé déjà lorsque l'islam arrive pour un dialogue, un échange, mais un échange malheureusement qui va être dévié, dominé par, comme aujourd'hui d'ailleurs, par la politique. La religion et la politique n'ont jamais été séparées. Et c'est la politique qui a conditionné, dans tous les cas, l'évolution de ces trois religions. Voilà pourquoi aujourd'hui nous devons essayer de réécrire cette histoire, comme je l'ai dit. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai choisi pour cet entretien de ce soir un sujet difficile, parce que c'est un sujet qui nous entraîne vers l'anthropologie religieuse, mais aussi on ne va pas oublier l'histoire des textes sur lesquels nous devons travailler. Et en plus, nous devons ajouter une autre discipline tout à fait essentielle pour travailler les textes sacrés, qui est la linguistique. la linguistique, parce que nous devons lire des textes. Et nous ne pouvons pas lire des textes sans nous armer des enseignements de la linguistique moderne. Et là encore, les exégètes chrétiens, juifs et chrétiens au Moyen-Âge étudiaient la grammaire, étudiaient les langues hébraïques et arabes et latines pour pouvoir interpréter les textes. Mais la grammaire telle qu'on la concevait au Moyen-Âge, ça n'est pas du tout la même chose que ce que nous faisons aujourd'hui au nom de la linguistique. Voilà pourquoi il est difficile de maîtriser ces disciplines nouvelles pour aller lire, relire, comprendre les textes anciens. Avant de rentrer dans notre sujet, violence, sacré, vérité, pour vous montrer comment ces trois concepts sont indissociablement liés. Avant de montrer cela, je voudrais vous dire quand même et vous rappeler, si vous le savez, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est que ce livre que nous appelons le Coran ? Quand nous disons le Coran, qu'est-ce que nous disons exactement ? Nous disons ce livre que nous tenons dans nos mains, qui est traduit en italien, en français, il est traduit dans toutes les langues du monde, comme la Bible. Et dans ce livre, il y a un certain nombre d'énoncés, de textes. Alors il faut tout de suite rappeler qu'avant d'être un texte mis par écrit, le Coran, comme la Bible et comme les évangiles, est d'abord un discours oral qui est délivré oralement, comme nous parlons ce soir ensemble. Il n'était pas écrit. Du point de vue de la linguistique, il y a là déjà un grand nombre de problèmes. Parce que ça n'est pas la même chose de recevoir un discours oralement dit devant un auditoire. Regardez-moi. Je vous parle et mes mains vous disent en même temps des choses. Je les bouge pour accompagner des choses qui me semblent importantes. Je lève la voix et parfois je vais la baisser selon ce que je veux vous communiquer pour atteindre votre intelligence et susciter vos réactions. C'est ce qu'on appelle en linguistique la situation de discours. Imaginez Jésus de Nazareth parlant aux pêcheurs de Palestine en langue araméenne, pas en langue grecque. Ça, voilà encore un problème de linguistique. Jésus a parlé de Nazareth. Je dis Jésus de Nazareth. Je n'ai pas dit Jésus-Christ. Je le fais remarquer au passage. Vous voyez la construction. La méthode d'une reprise du fait religieux consiste non pas à ignorer les théologies, non pas à les disqualifier, pas du tout. Mais cela consiste à suspendre le moment théologique, ne pas le laisser nous envahir dès le début. Parce que les théologies vont faire l'objet elles-mêmes d'un réexamen critique avant de les utiliser comme des lieux d'enseignement orthodoxe. Vous voyez, c'est une lourde tâche. De la même façon, je ne vais pas vous dire tout de suite le prophète Mohammed, non. Il n'est pas encore prophète. Au moment où le Coran est en train d'émerger, ce livre-là que nous lisons, il a émergé pendant 20 ans. De 610 à 632. 610, 612 à 632. Pendant 20 ans, Mohammed ibn Abdallah, voilà son nom, comme Jésus de Nazareth, il est de Nazareth. Il est connu comme étant de Nazareth. C'est la généalogie. C'est par la généalogie qu'on nomme les personnes. Et pour l'instant, Mohammed ibn Abdullah, c'est un membre d'une famille connue de la Mecque, famille qui appartient à une tribu également connue, et il est connu par son nom. Et ça va demander du temps avant qu'il ne soit reconnu comme le prophète de Dieu qui a reçu la révélation. Je vous ai dit l'histoire, voilà l'histoire. L'histoire nous interdit d'employer d'emblée un langage qui vient de la théologie. Il faut le suivre pas à pas pour nous permettre de comprendre comment les choses se sont passées. Donc, le Coran, comme les évangiles, comme la Bible, tous les textes que nous lisons, ont été déjà, d'abord des énoncés oraux. Je n'ai pas le temps de vous en dire plus, mais ça déjà devrait donner lieu à plusieurs conférences. Il a fallu du temps pour passer du stade du discours oral au stade de la collection dans un livre. Biblos, c'est le livre. Le Coran, c'est le livre. Et ce livre-là va être constitué sous le contrôle d'un certain nombre de témoins qui ont entendu Jésus de Nazareth, qui ont entendu Mohammed ibn Abdullah formuler ce qu'ils ont formulé. Et on va le mettre par écrit progressivement. Là aussi, c'est trop long à raconter, mais j'attire votre attention sur tous les problèmes qui sont en suspens et qui ont été négligés justement par les théologies pour construire les théologies jusqu'à présent et qu'il faut aujourd'hui faire remettre en circulation, les enseigner et voir ce qui s'est passé. Il y a des historiens qui s'en occupent et aujourd'hui nous avons toute une documentation, par exemple sur les évangiles et la constitution des évangiles, pour en arriver à un stade où les textes que nous lisons s'appellent en réalité, alors là c'est l'historien qui dit cela, des corpus officiels clos. Le Coran que nous tenons dans les mains, c'est un corpus officiel clos. Les quatre évangiles que nous lisons, c'est un corpus officiel clos. La Bible, la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'un corpus officiel clos? Oui, c'est un langage technique, mais très précis. Corpus, ça veut dire un corps, le corps de texte. Un ensemble de textes réunis dans un volume. Officiel. Pourquoi? Parce qu'il y a des autorités officielles, soit de l'Église, soit du rabbinat, soit du calife musulman, qui sont intervenus pour contrôler la validité des textes réunis pour les déclarer authentiques. Il y a des évangiles apocryphes qui ont été mis de côté. Et il a fallu prendre des décisions pour dire ça c'est l'évangile authentique, ça c'est l'évangile apocryphe. De la même façon, dans le Coran, il y a eu des contrôles pour dire ça oui, on l'a entendu de la bouche, après, on peut dire, du prophète, après coup. Et ça, il y a discussion. Donc il y a eu un contrôle. C'est pour cela que c'est un corpus officiellement constitué. Et dernier mot, le corpus, une fois reconnu par l'autorité, soit de l'Église, soit enfin des Églises, disons, des Églises musulmanes, juives, etc., il va être déclaré clos. C'est-à-dire, on ne peut plus y changer une virgule. On ne peut plus y introduire un texte en disant « Ah, j'ai trouvé un texte qui est authentique ». C'est fini, c'est clos. Et vous voyez comment nous créons une situation qui est absolument la même. Et d'un point de vue historique, il n'y a pas de théologie pour se disputer jusqu'à présent. Et vous voyez l'intérêt qu'il y a à suspendre le moment théologique. Pour l'instant, c'est des choses techniques de l'historien. Pour savoir qu'est-ce que c'est que ce texte que nous lisons et qui a fonctionné pour le Coran depuis le Xe siècle, car ça a pris tout ce temps-là, qui a fonctionné comme un texte officiel clos. Et je n'ai pas le temps de vous montrer les conséquences pour l'exégèse, c'est-à-dire la signification des textes, les conséquences du fait que nous sommes obligés de lire tous un texte officiel clos. Je n'ai pas le temps d'élaborer. Mais je vous livre, vous voyez, chemin faisant, un certain nombre de problèmes que nous ne pouvons pas éviter si nous voulons déminer le champ de mine sur lequel nous vivons, sur lequel nous cheminons. Car cette histoire-là a déterminé un certain nombre de positions théologiques qui aujourd'hui sont tellement enracinées dans nos cultures respectives qu'il est extrêmement difficile d'introduire, par exemple, comme je vais le faire, la notion de violence dans les Écritures saintes. Ceci dit, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Pardonnez-moi toutes ces petites explications qui, je crois, sont nécessaires. D'abord, dans ce triangle anthropologique, c'est un triangle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de l'espace déterminé par le triangle. À chaque sommet du triangle, vous avez violence, sacré, vérité. Vous pouvez prendre n'importe quel sommet, vous tournez, et c'est lié comme ça. On ne peut pas les séparer. Mais quand nous parlons aujourd'hui de la violence, nous disons, non, ça n'est pas du tout pour notre religion. Notre religion est une religion de paix. Ça n'est pas une religion violente. Elle est là pour établir la paix entre les hommes. Donc, nous nions le phénomène de la violence. Alors que les anthropologues nous disent et nous démontrent, et aussi les historiens, que la violence a conduit l'existence des hommes depuis qu'il y a des hommes en société, et que aujourd'hui, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, vous voyez comment la violence éclate partout, nous entoure de partout, et la violence n'est pas liée seulement aux guerres de religion, comme nous disons. La violence a existé aussi avec la raison des Lumières, avec la modernité. La modernité qui nous a promis la tolérance, la liberté religieuse, donc la libération des enseignements dogmatiques des religions, n'a pas empêché, n'a pas surmonté le phénomène de la violence. Et notre XXe siècle a connu des violences terribles en Europe même, qui est le lieu de naissance de la raison des Lumières, le lieu de naissance de la modernité. C'est bien la preuve que la violence est, encore une fois, une dimension de l'existence humaine que nous n'avons pas su conjurer, ni par les efforts développés par les religions, ni par les efforts d'humanisme et de culture développés par la raison moderne. La violence est là. Voilà pourquoi il faut maintenant la regarder comme un phénomène qui est partout et qui n'est pas lié, surtout depuis les 20 dernières années. Vous savez comment, en Occident, on lie la violence au fondamentalisme musulman. Les musulmans sont les violents par excellence, si je puis dire. C'est une des raisons qui ont fait que j'ai choisi de réfléchir sur cette sourate 9, où précisément nous avons des versets qui théorisent ce que vous connaissez tous, le djihad. Le djihad, c'est ce que l'on appelle la guerre juste. Ce concept de guerre juste, de guerre légitime, de guerre sainte, menée au nom de Dieu, ce concept, mesdames et messieurs, n'est pas du tout particulier à l'islam. Pas du tout. Vous le trouvez déjà dans la Bible. Et vous le trouvez chez saint Augustin. ici dans sa cité de Dieu, a théorisé pour le christianisme et la pensée chrétienne la notion de guerre juste. Et l'expression « guerre juste » vient justement de saint Augustin. Et même, lorsque la guerre du Golfe a éclaté, vous vous en souvenez tous, même les plus jeunes, parce que c'est récent, le président Bush et le président François Mitterrand, dans leur discours pour légitimer la guerre du Golfe, ont tous les deux employé l'expression théologique de saint Augustin, la guerre juste. Et François Mitterrand ajoutait les soldats du droit. Les soldats du droit, les soldats français qui allaient se battre à la guerre du Golfe, les soldats du droit. Ceci pour vous dire combien sont importants les concepts que je mets sur la table pour les analyser sans les partis pris et les préjugés qui désignent telle religion comme violente et telle autre comme une religion de paix. Il y a sûrement des enseignements pour la paix dans les religions. Les religions ont fait un effort pour juguler justement la violence. Mais il faut bien dire qu'elles n'y ont pas réussi. Un mot sur le sacré, qui est la seconde grande force qui agit dans l'histoire des sociétés, soit à travers les religions, soit à travers les cultures modernes. J'insiste sur ce rapprochement. Le sacré est présenté comme une dimension de ce qui il est défendu de dénoncer, de souiller, pour conserver la pureté nécessaire pour approcher la divinité. L'espace sacré et le temps sacré sont un espace et un temps où l'homme se dépouille de tous les attributs de sa vie ordinaire profane pour pouvoir entrer en communication avec la divinité. Pour aller prier, par exemple, pour aller en pèlerinage. Et le sacré est considéré par conséquent comme une réalité substantielle et inchangeable, sans laquelle il n'est pas possible de vivre une vie religieuse. Elle est donc une définition intrinsèque de la vie à la vie religieuse. Mais que disent les anthropologues contemporains sur la notion de sacré? Ils nous disent que le sacré est une relation personnelle au temps et à l'espace. Par exemple, lorsque les musulmans vont à la Mecque accomplir leur pèlerinage, ils se trouvent dans un espace sacré parce qu'ils se reconnaissent dans cet espace comme le lieu désigné par le Coran pour entrer en contact précisément avec Dieu. Mais si un hindou ou un juif ou un bouddhiste vient à la Mecque et observe les musulmans en train d'accomplir leur rituel du pèlerinage, pour lui, il n'y a rien de sacré là-dedans. Inversement, lorsque les hindous vont dans le Gange pour accomplir les rituels sacrés pour l'hindouisme dans la rivière du Gange, pour eux, ils sont dans un espace sacré, dans un lieu sacré, mais pour les autres qui viennent observer, ça n'est pas sacré du tout. Donc vous voyez que le sacré, lorsque nous analysons son fonctionnement, est une notion relationnelle. C'est une relation contingente, puisque elle est liée à la culture que je reçois, et qui fait que, pour moi, Rome l'espace de Saint-Pierre est un lieu sacré, un chrétien. Le mur de Jérusalem est un lieu sacré pour les juifs, mais pour les musulmans qui sont là à côté, le mur, ça ne leur dit pas grand-chose. Donc retenons bien ces deux définitions lorsque nous parlons du sacré. Il faut les considérer toutes les deux. Je ne dis pas que l'une doit éliminer l'autre. Vous voyez, ici encore, un point de méthode. On n'a pas le droit de dire, l'anthropologue nous enseigne parce que lui, il est moderne et les autres, on ne le sent pas. Non. Car la relation personnelle que le croyant entretient avec ce qui, pour lui, est un temps sacré et un lieu sacré, est aussi une réalité qui existe. Et donc, nous avons à tenir compte. Et là, vous voyez qu'il y a un problème. Il faut que les croyants réfléchissent à la dimension à la fois relationnelle et contingente du sacré, et à la dimension également transcendante, substantielle, essentielle du sacré. Troisième terme, la vérité. Ça, c'est la notion la plus importante. Parce que c'est par la notion de vérité que se sont justifiés dans l'histoire des religions et des idéologies le recours à la violence, que se sont justifiés les guerres. Et dans la sourate 9, nous avons exactement l'illustration de la vérité proclamée à l'intérieur d'une religion et qui va servir de point d'appui pour engager des guerres, des luttes militaires contre des groupes, d'autres groupes humains qui ne reconnaissent pas cette vérité et même s'opposent farouchement à cette vérité. Alors ici, je vais demander au Père de vous lire en italien, comme ça, ça passera directement, les cinq premiers versets de la sourate 9. Écoutez-les bien, s'il vous plaît, et essayez de laisser votre sensibilité fonctionner pour réagir spontanément à ce que vous allez entendre. Et j'aimerais bien recueillir justement vos réactions, parce que ça nous servira de test sur la manière dont nous lisons les textes sacrés et la manière dont nous réagissons spontanément à un certain nombre de termes que vous allez entendre. Et on peut soit se maîtriser et dire attention, il faut réfléchir, soit dire oh, mais c'est pas. Je commente déjà trop. Allez-y.
Oui. Immunità da parte di Dio e del suo messaggero per quegli idolatri col quali abbiate stretto un patto. Viaggiate pure sulla terra per 4 mesi, ma sappiate che non riuscirete a vincere Dio e che Dio coprirà d'obbrobrio i negatori. Ed ecco un proclama da parte di Dio e del suo messaggero agli uomini per il giorno del gran pellegrinaggio. Dio non è responsabile degli idolatri, e così il suo messaggero. E se vi convertirete, meglio sarà per voi, ma se volgerete le spalle a Dio, sappiate che non riuscirete a sopraffarlo. Annunzia ai miscredenti un castigo cocente. Esclusi quei pagani coi quali avete stretto un patto e che in nulla hanno poi mancato contro di voi, né prestato soccorso contro di voi ad alcuno, osservate fino all'ultimo, allora il patto con loro fino al termine prestabilito, poiché Dio ama quei che lo temono. Quando poi saranno trascorsi i mesi sacri, uccidete gli idolatri, dovunque li troviate, prendeteli, circondateli, appossateli dovunque imboscate. Se poi si convertono, e compiono la preghiera e pagano la decima, lasciateli andare, poiché Dio è indulgente e clemente.
Vous voyez en particulier le dernier verset. Le dernier verset où il est question de combattre les polythéistes. Et il y a un ordre précis qui est donné pour les combattre. Et la sourate commence par une déclaration de rupture de pacte. Il y a eu des pactes qui ont lié le prophète à un certain nombre de tribus païennes au début de la révélation, au début de la mission, et à ce stade de la révélation, je ne vous ai pas précisé, pardon, que la sourate 9 est la dernière, chronologiquement, qui a été révélée. C'est la dernière. Nous sommes à la fin du processus révélatoire. Et donc, nous sommes dans un moment où la première communauté musulmane est devenue suffisamment consistante pour avoir confiance dans sa survie. Car pour elle, c'était une question de survie, étant donné que la prédication de Mohammed a été refusée, aussi bien par l'ensemble des Arabes qui étaient polythéistes, effectivement, et par les deux autres catégories de la population, les juifs et les chrétiens, qui disaient à Mohammed, mais tu nous racontes des blagues, pour nous la révélation c'est terminé, et ce que tu nous dis là, ça n'est pas du tout nécessaire qu'on l'entende. Donc nous sommes, vous le voyez, dans un climat conflictuel, ce qui est normal dans toute société où vous avez un perturbateur, comme on l'appellerait au début, qui vient introduire la subversion, surtout une subversion qui touche aux choses les plus sacrées, car les païens aussi ont leur espace sacré et leur temps sacré. C'est pour cela qu'ils se battent et qu'ils veulent le défendre. Vous voyez la notion de sacré. Combien c'est important. C'est au nom du sacré religieux que ce que le Coran ici dans cette sourate appelle les bédouins, et les bédouins ne voulaient pas suivre les appels du prophète pour contribuer au djihad, à la guerre juste, parce qu'ils défendaient à la fois une culture et une religion, un sens du sacré. Et vous voyez ici la confrontation frontale de ce que les groupes sociaux dans toutes les sociétés anciennes et actuelles appellent la vérité. Aujourd'hui, nous l'appelons notre identité. Voyez comment nous parlons aujourd'hui de notre identité. C'est un substitut du mot vérité. Mon identité, c'est ma vérité. Et je peux mourir pour elle. Aujourd'hui encore. Et vous voyez comment ces choses-là cheminent dans les nationalismes que nous appelons modernes et sécularisés, mais que nous enveloppant dans une terminologie qui cache le mot vérité, alors qu'ici le mot vérité est explicité. Le Coran parle de la religion vraie, de ceux qui professent la religion vraie et les autres qui n'ont pas accédé à ce statut de religion vraie. Et vous voyez par conséquent que tout va dépendre, pour tous les groupes sociaux, de la manière dont nous présentons la notion de vérité. Comment nous construisons la notion de vérité? C'est une construction sociale et linguistique. Ici aussi, je m'excuse, je n'ai pas le temps de suivre mon texte pas à pas, pour vous montrer comment le Coran et surtout cette sourate-là construit linguistiquement, par une pédagogie linguistique, construit cette notion de vérité, qui est essentielle bien sûr, pour donner une légitimité à cet appel à la guerre juste qui est fait tout au long de la sourate. Une chose plus importante que... Je vais essayer d'aller vite parce que je vois déjà, vous voyez, c'est très long. Hein. C'est très long et compliqué, je m'excuse, j'essaye de simplifier le plus possible. Mais quand même, le verset 29, s'il vous plaît.
Oui.
Le verset 29.
Messo insieme, rivisto e corretto alla luce della ragione. Il Corano è stato naturalmente il profeta, sallallahu alaihi wasallam, durante tutta la vita, dall'angelo, dall'arcangelo Gabriele, che è lo stesso arcangelo che in qualche modo manifesta l'ordine di Dio a Maria, e manifesta in qualche modo, è lo strumento della concezione della nascita, ecco, di Gesù. E allora è in questa dimensione che noi dobbiamo porci. I testi, le rivelazioni non possono essere violente, non nel senso della non violenza che come possono concepirla gli uomini di oggi. La violenza è in qualche modo infrangere la legge, violare la legge. I testi sacri non possono essere questi perché sono la manifestazione della legge e della verità e della norma divina. Allora è un problema nostro piuttosto, ma non è un problema di interpretazione razionale. È un problema di ritrovare quel fondamento che è il fondamento della religione. La religione non parla solo alla ragione, parla ad un'altra dimensione che è l'intelletto. E mi permetto di chiudere su questo perché credo che questo sia l'aspetto, la vera mancanza di cui l'Occidente è in qualche modo l'esempio più terribile. Ecco, non c'è più un accesso diretto perché non c'è più una concezione di una facoltà sovraindividuale che è quella dell'intelletto. E mi permetto di chiudere anche sull'esempio che è stato portato dal professor Arkun quando parla di Averroè. Forse Averroè ibn Rushd, la cui profondità va ben al di là dei razionalisti moderni, forse la possibilità si è manifestata alla fine della sua vita, quando Averroè incontra un vero sapiente, Ibn Arabi, radiallahu anche Dio sia soddisfatto di lui, ed è questo sapiente che apre ad Averroè la possibilità e la concezione di un'intuizione che sia veramente su un piano intellettuale. Ecco, questo credo non è emerso purtroppo dall'intervento del professor Muhammad Arkun, ce ne dispiacciamo molto, anche perché con questa mancanza di fondo tutto viene snaturato in una dimensione interpretativa, in una rivisitazione psicologica. La dimensione della religione non è su un piano psicologico, è su un piano ontologico, che è la realtà costitutiva degli esseri, è su questo piano che opera, e su questo piano naturalmente non possono essere fatte delle rivisitazioni, delle reinterpretazioni o delle purificazioni. La dimensione del sacro è la custodia della verità, la verità è accessibile attraverso una facoltà sintetica che è quella dell'intelletto. Se noi usciamo da questa prospettiva, noi non avremo più la possibilità di accesso alla verità. Grazie.
Grazie. Dans la présentation que j'ai faite, il y a une place bien sûr pour le discours que vous tenez. Votre discours n'est pas écarté. Mais votre discours est un objet d'étude et d'analyse. Ah oui, le mien aussi. Ah bien sûr. Tous les discours prononcés par des acteurs sociaux, et nous sommes tous des acteurs sociaux. Regardez, c'est une métaphore empruntée au théâtre. Acteurs. Nous sommes des acteurs sociaux. C'est-à-dire que lorsque nous prenons la parole en public, ça n'est pas du tout lorsque nous parlons à deux ou à trois. Parce qu'il y a toutes sortes d'exigences de la parole devant un public large. Mais l'essentiel, c'est que dans ce que j'ai présenté, je n'ai pas dit « les choses doivent être ainsi ». Les choses doivent être soumises à la raison, comme vous dites. Je ne le dis pas, je ne l'ai jamais dit, je ne le pense pas. Je dis que tous les discours que tiennent dans une société donnée, et toutes les sociétés, sont des discours qui disent des choses sur l'homme et méritent par conséquent d'être pris en charge. Tous, quel que soit leur niveau d'élaboration intellectuelle, quelle que soit leur proximité religieuse ou scientifique, imaginaire ou rationnelle, tous les discours doivent être pris en charge, y compris le vôtre, cher monsieur. Et je vois très bien tous les horizons d'où viennent les propos que vous venez de tenir. Je fréquente ces textes. Je connais ces textes. Ils ne m'échappent pas. Je les ai étudiés. Ne prétendez pas me donner une leçon là-dessus. Eh oui. Donc, ce discours de la croyance fait l'objet d'études, d'une étude, d'une analyse. Pour qu'on s'entende justement sur ce qu'est la croyance. Aujourd'hui, dans nos sociétés, non pas rationalisées, mais soumises à une nouvelle forme de la raison, encore beaucoup plus puissante et plus dévastatrice en un sens que la raison positiviste et historiciste du XIXe siècle, dont nous ne sommes pas d'ailleurs entièrement sortis. C'est la raison que les philosophes appellent la raison télé-techno-scientifique. Télé, la télécommunication, la société de l'information. Techno, c'est toute la technologie. Et scientifique, puisque télé et techno sont basés sur une production scientifique qui tente effectivement à écarter l'interrogation philosophique sur ce que toutes les formes de la raison font de la raison. Qu'est-ce que je fais de la raison lorsque je parle? Ça, c'est philosophique. La raison télé-techno-scientifique ne pose pas cette question. Il faut que je réussisse une technique. Il faut que cette technique marche, et il faut que ça rapporte. Et il faut pour cela engager toutes les ressources du management des ressources humaines, comme nous disons. Et nous sommes tous engagés dans la civilisation du management au service de la raison télé-techno-scientifique. Mais la raison qui interroge sur tout ce que la raison fait de la raison, y compris la raison qui se targue de la croyance et du donné révélé qui est là et qui m'est accessible et que je peux immédiatement comprendre. Mais tout cela est trop compliqué. Je n'ai pas eu le temps de l'expliquer assez pour vous dire ce que j'entends par la complexité de ce qu'on appelle la loi religieuse. Mais nous manquons d'espaces publics comme celui-ci. Dans tous les pays d'Europe, nous manquons d'espaces publics où ce genre de choses ne se passe pas en une heure ou en deux heures, dans une soirée. Je peux reprendre chacune de vos phrases et l'analyser ensemble, et vous avec nous tous. Personne n'est mis de côté. C'est ça, la nouvelle ambition d'une raison que j'appelle moi une raison englobante et non pas exclusiviste. Car la définition exclusiviste de la vérité, c'est celle du triangle anthropologique. Il faut sortir du triangle anthropologique. Et on ne peut en sortir que par la conversation humaniste et l'éducation. Et la convivenza, comme vous l'appelez si bien. La convivenza, c'est un humanisme. C'est tout l'humanisme italien que nous admirons dans tant d'œuvres d'art, peinture, sculpture, architecture, urbanisme dans ce pays, où on peut le dire, parce qu'on a des exemples, et nous sommes dans un exemple. C'est par cela qu'il faut le faire. Mais l'Italie elle-même, malgré ses richesses humanistes, doit sortir, comme je l'ai dit, de l'historiographie nationale pour faire éclater les richesses de cette convivenza et la porter au monde et faire participer tout le monde à cet exercice nouveau, inédit de la raison. Je regrette, je n'ai pas eu le temps de vous le montrer assez, mais je vous assure qu'il a des gens qui défendent cette ligne de la pensée et de la réflexion en Europe et dans le monde musulman. Malheureusement, on parle beaucoup plus du fondamentalisme musulman que des voix humanistes de musulmans. Oui, ça existe. Vous le verrez dans quelques mois. J'ai un livre qui s'appelle « Combat au pluriel pour l'humanisme en contexte islamique ». Contexte islamique au pluriel. Voilà ma réponse à votre discours.
Abbiamo ancora qualche minuto, ci fosse un'altra domanda. Bene, allora concludiamo, ecco, ancora ringraziando il professore con tutta la sua disponibilità a dover star qui ancora a discutere, a parlare. Ecco, ricordando a tutti che mercoledì 4 ottobre avremo un maestro di ermeneutica ebraica dell'oratorio Beit Yosef di Milano, con il tema il Dio e il popolo che scaturiscono dalla scrittura. Haim Bar-Yeh. Ecco, siete invitati tutti. Grazie e arrivederci.